Chapitre 2. Réparation.
Bon, alors retour à la plage,
constata Parangon.
Pas pour longtemps,
assura Ambre. Elle posa brièvement sa main gantée sur le pont. C'était un geste de tendresse, mais ce n'était qu'un geste. Elle avait dormi longtemps, profondément, et il avait attendu avec impatience son réveil pour retrouver le contact fugace qu'ils avaient partagé. Mais cela ne devait pas être. Il ne pouvait l'atteindre, il la sentait à peine. Il était plus seul que jamais. Brachen n'avait plus confiance en lui. Parangon avait essayé de lui dire qu'il n'y avait pas d'avarie dans les œuvres mortes, mais Brachen avait tenu à échouer le navire sur la plage. Le capitaine s'était excusé avec raideur en expliquant qu'il aurait agi de même avec n'importe quel navire aussi endommagé que Parangon. Puis, il avait mis au sec la carcasse roussie sur une plage de sable. La marée s'était retirée, l'échouant là, la coque presque entièrement découverte. Au moins était-il hors de portée du serpent qui tournait sans fin autour de lui. L'animal le harcelait, l'incitant à la vengeance, ce qui le rendait fou. Brachen avait sèchement enjoint les membres survivants de l'équipage de procéder aux réparations. Il arpentait le pont, l'air imposant, ouvrant à peine la bouche, et le travail avançait malgré le manque d'entrain des hommes. Le mât de réserve avait été dressé et fixé. On avait récupéré manilles et manœuvres courantes, on avait tiré sur le pont des morceaux de cordage intacts qu'on avait épicés, de la toile et autres fournitures. Les vivres gâtés avaient été jetés par-dessus bord. On avait barré les fenêtres cassées dans la chambre du capitaine, envoyé une équipe à terre pour couper du bois afin de confectionner des espars. Le bois vert serait impropre à travailler, mais il n'avait pas le choix. Il n'y avait pas de bavardage, pas de chansons, pas de plaisanteries. Même Cliff était renfermé et muet. Personne n'avait tenté d'effacer les taches de sang sur le pont. On les contournait ou on les enjambait. Le venin des serpents avait fait des trous et des indentations dans le bois sorcier, avait piqueté le visage de la figure de proue et laissé des traînées sur sa poitrine. Des cicatrices de plus. Vêtue d'une ample tunique taillée dans un drap, Ambre avait trimé avec les autres jusqu'à ce que Brachen lui ait ordonné avec brusquerie de prendre du repos. Elle était restée allongée quelque temps en silence sur sa couchette. Puis elle s'était levée comme si elle ne pouvait supporter de rester immobile. À présent, elle était assise sur le gaillard d'avant et triait les outils qui allaient lui servir. Elle se déplaçait avec gaucherie, ménageant le côté brûlé de son corps. Parangon s'était habitué à ce qu'elle lui fasse part à voix haute de ses faits et gestes, mais aujourd'hui elle était silencieuse. Il la sentait préoccupée mais n'en comprenait pas la raison. Kenith et la Vivacia avaient disparu comme s'ils ne s'étaient jamais trouvés là. De la horde qu'il avait attaquée ne restait qu'un seul serpent. Les jours de calme depuis le coup de tabac rendaient tout cela encore plus irréel. Mais cela n'avait pas été un rêve. Les dragons étaient tapis en lui, juste sous la surface. Un sang neuf marquait son pont. Plusieurs matelots étaient toujours fâchés contre lui. Ou ils avaient peur de lui. Parfois, avec les humains, il était difficile de démêler les deux. Mais c'était la distance qu'Ambre observait à son égard qui le blessait le plus.
« Je n'y pouvais rien, »
répéta-t-il sur un ton plaintif.
« Vraiment ? »
demanda-t-elle avec indifférence. Elle avait été comme ça tout l'après-midi. Elle ne l'accusait pas, mais elle n'acceptait pas non plus ce qu'il disait. Et il perdit son sang-froid.
« Non, je n'y pouvais rien. Et puisque tu as fouillé dans mes souvenirs, tu devrais le comprendre. Kenith fait partie de ma famille. Tu le sais maintenant, tu sais tout désormais. Tous les secrets que j'avais juré de garder pour moi, tu les as volés. »
Il retomba dans le silence, troublé par le remords. Il ne pouvait être loyal. S'il était loyal envers Kenith, il était déloyal envers Ambre et ses dragons. Kenith faisait partie de sa famille. Pourtant, il lui avait déjà une fois manqué de parole. Il était déloyal et méchant. Pire, il se sentait affranchi. Ses émotions tournaient comme une girouette. Il n'avait pas vraiment voulu mourir ni tuer tous ses amis. Ambre aurait dû le savoir. Elle savait tout désormais. Il trouvait une sorte de réconfort honteux à partager ce terrible secret, car il était content que quelqu'un enfin sache tout. Son côté puéril espérait qu'elle lui dirait quoi faire. Trop longtemps, il s'était colleté avec ses souvenirs effrayants et odieux. Au bout de tout ce temps, ils auraient dû disparaître, devenir insignifiants. Au contraire, ils avaient formé un abcès, et au moment même où ils renaissaient à une vie nouvelle, la vieille blessure avait crevé et tout empoisonné. Cela avait failli les tuer tous. « Tu aurais dû nous le dire. » Les mots étaient contraints comme si elle avait voulu les retenir. « Pendant tout ce temps, tu savais bien des choses qui auraient pu nous aider, et tu les as gardées pour toi. Pourquoi, Parangon, pourquoi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il sentait ce qu'elle était en train de faire. Elle tournait un cordage sur un taquet. Elle s'y appuya de tout son poids, puis elle approcha de la lisse et l'escalada avec raideur. Elle retomba par-dessus la proue, s'élançant devant lui et sans crier gare, atterrit légèrement contre sa poitrine. Par réflexe, il leva les mains pour l'accueillir. Elle se figea dans son étreinte, puis déclara avec résignation
« Je sais. Tu pourrais me tuer sur le champ si tu voulais. Mais depuis le début, nous n'avons pas eu d'autre choix que nous en remettre à toi. J'ai espéré que la confiance serait réciproque, mais à l'évidence, cela n'a pas été le cas. Tu as prouvé que tu étais capable de nous tuer tous, cela étant, je ne vois plus de raison de te redouter. Que tu décides ou non de nous tuer, tu m'as montré que je n'ai aucune prise là-dessus. Tout ce que je peux faire, c'est observer une discipline de vie et accomplir ce que je dois. »
« Peut-être est-ce vrai pour moi aussi, »
rétorqua-t-il. Il fit une plateforme de ses mains afin qu'elle puisse y tenir, tout comme pour le petit Kénith il y avait si longtemps. Elle ne releva pas ses paroles. Elle passa légèrement ses mains gantées sur le visage de Parangon, effleurant ses nouvelles cicatrices, ses joues, son nez et sa barbe. Il ne put laisser le silence se prolonger.
« Cette nuit-là, tu m'aimais. Tu étais prête à risquer ta vie pour me sauver. Pourquoi es-tu si fâchée aujourd'hui ?»«
Je ne suis pas fâchée, » protesta-t-elle. « Je ne peux m'empêcher de penser que tout aurait pu tourner différemment. Je suis blessée, non, chagrinée. À cause de ce que tu n'as pas fait, alors que nous avons accompli ce que nous avons pu pour toi, à cause de tout ce que tu nous as caché. Et si je suis si profondément peiné, c'est sans doute parce que je t'aime à proportion. Pourquoi ne nous as-tu pas fait confiance, Parangon? Si tu nous avais révélé tes secrets, tout se serait résolu différemment. »
Il réfléchit un moment à ses paroles tandis qu'elle lui tâtait le cou et la mâchoire.
« Tu en as plein, toi aussi, des secrets, »
dit-il subitement accusateur,
« que tu n'as jamais partagé avec nous, et tu me méprises parce que je les garde pour moi ?»«
Les secrets que je détiens m'appartiennent. Mon silence ne nuit à personne, »
repartit-elle d'un ton devenu solennel. Il devina ses doutes.
« Tu n'en es pas sûr. » Il était tout aussi dangereux que je parle ou que je me taise, mais comme tu dis, ses secrets m'appartenaient. C'est peut-être la seule chose qui m'est vraiment appartenue. »
Elle observa un long moment le silence.
« Où sont les dragons ? »
dit-elle enfin.
« Que sont-ils ? Pourquoi y a-t-il des dragons en toi ? Est-ce à cause de toi que je rêvais de dragons et de serpents ? Ai-je été appelé vers toi ? »
Il réfléchit un instant.
« Que me donneras-tu en échange si je réponds ? Un de tes secrets ? Pour me prouver que tu me fais confiance autant que je te fais confiance. »
« Je ne sais pas si je peux, »
prononça Ambre avec lenteur. Elle avait cessé de lui caresser le visage.
« Mes secrets sont ma cuirasse. Sans eux, je suis très vulnérable à toutes sortes de blessures, même aux blessures infligées involontairement. »
« Tu vois, tu comprends !»
s'écria-t-il aussitôt. Il sentit que son trait portait. Elle prit une inspiration et parla avec précipitation, comme si elle plongeait dans l'eau froide.
« C'est difficile à expliquer. »
Quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'en parlais, on me trouvait trop prétentieuse. On voulait me persuader que je ne pouvais pas être celle que je croyais. Finalement, je me suis sauvée. Alors, je me suis promis que je n'aurais plus peur de ce qu'on pourrait penser de moi, que je ne révélerais pas l'avenir qui m'attendait. Très rares sont ceux à qui j'ai fait part de mes rêves et de mes ambitions.
« Tu parles beaucoup, mais tu ne dis pas grand-chose. »
fit remarquer Parangon avec impatience.
« Qu'es-tu exactement ?»
Elle eut un petit rire sans joie.
« Je ne saurais te l'expliquer en un mot. On m'a traité de folle aussi souvent que de prophète. J'ai toujours su que j'avais des choses à accomplir pour le monde, des choses que personne d'autre ne pourrait accomplir. »
« Bon, c'est vrai de chacun de nous, je n'en doute pas. Pourtant, je suis sur une voie que je ne distingue pas clairement. Il y a des guides le long du chemin, mais je ne les trouve pas toujours. Je suis parti à la recherche d'un petit esclave à 9 doigts. »
Elle secoua la tête. Il le sentit.
« À la place, j'ai découvert Althea, et quoiqu'elle ne soit ni garçon ni esclave et qu'elle ait ses 10 doigts, j'ai eu l'intuition qu'elle avait un rapport avec lui, alors je l'ai aidée. Puissent les dieux me pardonner, je l'ai aidée à chercher sa mort. Puis, j'ai rencontré Malta, et je me suis demandé si ce n'était pas elle que j'aurais dû aider. Je tends le bras, Parangon, à travers les brumes du temps, pour atteindre des symboles qui deviennent des hommes et des hommes qui frôlent la légende. J'ai une tâche à accomplir ici, mais elle me demeure cachée. Je ne peux qu'aller de l'avant en espérant que, le moment venu, je la reconnaîtrai et j'agirai comme il faut. Quoique, aujourd'hui, l'espoir soit bien mince. »
Elle respira.
« Pourquoi y a-t-il des dragons en toi ?»
Il devina qu'elle avait délibérément changé de sujet. Néanmoins, il lui répondit
« Parce que j'étais destiné à être dragon. Ce que vous appelez bois sorcier est en fait une enveloppe protectrice que les serpents de mer tissent autour d'eux avant de commencer leur métamorphose en dragon. Les marchands du désert des pluies ont découvert des dragons dans leur enveloppe parmi les ruines d'une antique cité. Après les avoir tués, ils ont utilisé leurs enveloppes, riches de souvenirs de dragons, pour construire des navires. On nous appelle Vivnef. Or, en vérité, nous sommes morts. Mais tant que la mémoire est vivante, nous sommes condamnés à une semi-vie, emprisonnés dans un corps balourd qui ne peut se mouvoir sans le concours des humains. Je suis plus malheureux que la plupart, car on a utilisé 2 cocons pour ma construction. Depuis que j'ai été créé, les dragons à l'intérieur de moi ont lutté pour prendre le dessus. »
Il secoua son immense tête.
« Je me suis éveillé trop tôt, vois-tu. Je n'ai pas absorbé assez de souvenirs humains pour me fixer fortement sur eux. Depuis que j'ai ouvert les yeux, je suis tiraillé. »
« Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu Parangon alors et non un dragon ?»
Il rit amèrement.
« Tu crois que c'est quoi, Parangon ? Sinon un vernis de souvenirs humains plaqués sur des dragons rivaux. En se disputant la prééminence, ils m'ont permis de m'affirmer. Quand je dis « je sais à peine ce que j'entends par là. »
Il soupira.
C'est ce que Kenith m'a donné, et ce qui me manquera le plus, la conscience de soi, le sentiment d'appartenir à une famille. Quand il était à bord, je n'avais aucun doute sur mon identité. Tu le considères comme un pirate sanguinaire. Moi, je le vois d'abord comme un petit garçon sauvage, plein de vie et de joie, dans le vent et les vagues. Il riait, se balançait dans la mâture et ne me laissait pas en paix. Il refusait d'avoir peur de moi. Il était né à bord. Peux-tu l'imaginer ? La seule naissance à laquelle j'ai jamais assisté a été en mesure d'effacer toutes les morts qui l'avaient précédée. Son père me l'a présenté tout couvert encore du sang de sa naissance. Tu n'as jamais été mon navire, Parangon, dans le fond de ton cœur, mais peut-être pourras-tu être le sien comme il est à toi. Et c'est ce qu'il a été. Il a tenu les dragons en échec. Toi, tu les as libérés et nous devons tous désormais en subir les conséquences.
Ils ont l'air tranquilles, endormis,
hasarda Ambre.
Tu parais tout à fait toi-même, en plus ouvert.
Exactement. Tellement ouvert que je laisse filtrer mes secrets. Qu'es-tu en train de faire ?
Il croyait qu'elle inspectait les dégâts causés par le feu. Il s'attendait qu'elle parcourt sa coque comme une araignée, non qu'elle se promène sur tout son corps.
« Je tiens à la promesse que j'ai faite à toi et au dragon. Je vais te sculpter des yeux. J'essaie de déterminer où commencer les réparations. »«
Non !»«
Tu es sûr ?»
demanda-t-elle à mi-voix. Il sentit son désarroi. Elle l'avait promis au dragon. Que ferait-elle si Parangon le lui interdisait ?
« Non, je veux dire, ne me répare pas le visage. Donne-moi un nouveau, un qui sera tout à moi. »
Heureusement, elle ne lui demanda pas ce qu'il entendait par là. Elle se borna à répéter
« Tu es sûr ?»
Il réfléchit un instant.
« Je crois, je ne veux pas être un dragon. C'est-à-dire, je veux bien, mais je désire être les deux, si je suis obligé d'être dragon. Et pourtant, je désire aussi être parangon, pour être, comme tu dis, trois fondus en un. Je veux... »
Il hésita. Si elle venait à rire de ce qu'il allait dire, ce serait pire que la mort, puisque la vie est toujours plus cruelle et dure que la mort.
« Donne-moi un visage que tu pourrais aimer. »
implora-t-il à mi-voix. Elle s'immobilisa, s'amollit dans ses mains. La tension qu'il avait sentie vibrer dans ses muscles disparut. Elle faisait quelque chose, puis les mains nues dansèrent légèrement sur sa figure. En le touchant, elle le mesurait et en même temps, elle s'ouvrait à lui. Peau contre peau. Elle ne se cachait plus de lui. Le contact suffit à Parangon pour comprendre que c'était l'acte le plus courageux qu'elle ait jamais accompli. Il brida sa curiosité et tenta de répondre à sa confiance. Il ne chercha pas à l'atteindre ni à la dépouiller de ses secrets. Il attendrait, il ne prendrait que ce qu'elle lui offrirait. Il sentit les mains se promener sur son visage, mesurer les proportions. Elle lui appliqua sa paume sur la joue.
C'est possible. En fait, ce serait facile.
Elle se racla la gorge.
Ce sera un gros travail, mais quand nous entrerons dans le port de Terrilleville, tu auras un nouveau visage.
Terrilleville ?
Il était étonné.
On rentre ?
Et où veux-tu qu'on aille ? À quoi bon défier encore Kenith ? Vivacia paraît contente d'être entre ses mains. Et même dans le cas contraire, que pourrions-nous faire ?
Mais, et Althea ?
Ambre suspendit son geste. Elle posa le front sur la joue de Parangon et lui communiqua la profondeur de son chagrin.
Tout cela, c'était pour Althea, navire. Sans elle, la tâche que je devais accomplir, quelle qu'elle soit, n'a plus de sens. Parashen n'a plus le cœur à continuer, et l'équipage n'a pas le courage de se venger. Althea est morte et j'ai échoué.
Althea ? Althea n'est pas morte. Kenith l'a repêchée.
Quoi ?
Ambre se raidit. Elle posa les mains à plat sur la figure de Parangon. Il était ébahi.
Comment pouvait-elle l'ignorer ? Kenith l'a repêchée. C'est le serpent qui me l'a appris. Je crois qu'il essayait de me mettre en colère. Il a affirmé que Kenith avait volé deux de mes humains, deux femelles.
Il s'interrompit. Il sentit qu'elle irradiait.
On aurait dit que la chaleur et la joie qui s'échappaient d'elle avaient fait éclater la coquille qui l'entourait.
« Jack aussi ?»
Elle prit une inspiration tremblante, comme si elle avait été longtemps privée d'air. Elle ajouta pour elle-même
« Toujours, toujours, je perds trop facilement la foi. Je devrais pourtant le savoir depuis le temps. La mort ne triomphe pas. Elle menace, mais elle ne peut dompter l'avenir. Ce qui doit être sera. »
Elle lui donna un baiser sur la joue qui le sidéra, puis lui tira la barbe.
« Allez, allez, repose-moi sur le pont. Brashen, Cliff, Altea n'est pas morte. Kenith l'a repêchée. C'est Parangon qui l'a dit. Brashen, Brashen !»
Aux cris éperdus d'Ambre, il arriva en courant, craignant que Parangon ne l'ait blessé. Mais Brashen vit la figure de proue la déposer avec douceur sur le pont roussi. Elle fit un pas en titubant dans sa direction, bafouillant quelque chose à propos d'Altea, puis elle s'affaissa sur les genoux.
« Je vous avais dit de vous reposer »
s'exclama-t-il furieux. Le venin du serpent avait fait sur elle des ravages. Ses cheveux chauves pendaient en écheveaux d'un cuir chevelu rouge qui se desquamait. Le côté gauche de son visage et de son cou était écarlate. Il ignorait l'étendue des lésions sur son corps. Elle marchait en claudiquant fortement, le bras gauche tout près du corps. Chaque fois qu'il la voyait, il était stupéfait qu'elle ait même pu quitter le lit. Il s'approcha précipitamment, la prit par le bras droit pour la remettre sur pied, elle s'appuya contre lui.
« Qu'y a-t-il? Ça va ?»«
Altea est vivante. Un serpent a révélé à Parangon que Kenith a recueilli deux femmes de notre navire. Il a Altea et Jack. On peut les reprendre. »
Les mots se bousculaient sur ses lèvres. Cliff se dépêchait, les sourcils froncés, ahuri. Brashen essayait de démêler le sens de ses paroles. Altea était vivante? Non, elle ne voulait pas dire ça. Le chagrin l'avait pénétré jusqu'à la moelle. Cette promesse de joie le blessait trop vivement. Il ne pouvait espérer. Il déclara durement
« Je n'y crois pas. »
« Moi, si !»
rétorqua Ambre.
« La façon dont il me l'a divulgué ne laisse aucun doute. C'est le serpent blanc qui le lui a appris. » Il a vu Kenith recueillir deux femmes de notre navire, Altea et Jack.
Les paroles d'un serpent transmises à un navire fou,
railla Brashen. Mais il avait beau dire, l'espoir flamboyait douloureusement en lui.
Pouvons-nous être sûrs que le serpent sait de quoi il parle? Était-elle vivante quand Kenith les a recueillies? Sont-elles toujours vivantes? Et même si c'était le cas, quel espoir avons-nous de les sauver?
Ambre se mit à rire. Elle lui empoigna l'épaule de sa main valide et essaya de le secouer.
« Brashen, elles sont vivantes. Accordez-vous un moment pour savourer la nouvelle. Quand vous aurez respiré un bon coup, que vous aurez dit « Altea est vivante », tous les obstacles seront réduits à de petits ennuis. Dites-le. »
Ses yeux bruns dorés étaient irrésistibles. Sans savoir pourquoi, il s'exécuta.
« Altea est vivante. »
Il essaya les mots tout haut. Ambre lui fit un grand sourire et Cliff se mit à gambader sur le pont.
« Altea est vivante !»
répétait le gamin.
« Crois-le »
l'encouragea Parangon.
« Le serpent n'a aucune raison de mentir. »
Quelque chose de mort remua en lui. En dépit de sa défaite à lui, peut-être était-elle toujours vivante. Il avait accepté le fardeau de sa mort qu'il imputait à ses échecs. Il avait essayé de vivre avec cette idée qu'il avait manqué à son devoir, et cela lui avait dérouté l'esprit. Ce sursis abattit ses défenses. Quelque chose qui ressemblait fort à un sanglot le secoua, et malgré le regard étonné de Cliff, les pleurs qu'il s'était interdits à l'idée de sa mort lui montèrent enfin aux yeux. Il écrasa les larmes, mais ne put maîtriser le tremblement qui s'empara de lui. Cliff eut l'audace de le tirer par le poignet.
« Capitaine, vous comprenez pas, elle est vivante? Pas la peine de pleurer maintenant !»
Il éclata d'un rire aussi douloureux qu'un sanglot.
« je sais, c'est seulement que... »
Les mots lui manquèrent. Comment pouvait-il expliquer à un gamin la vague d'émotions qui accompagnait le rétablissement de son univers? Ambre lui apporta d'autres idées.
« Kenith ne se serait pas donné la peine de la sauver pour la tuer après. Il a l'intention de réclamer une rançon. C'est la seule explication logique. Il se peut que nous n'ayons pas assez d'argent pour payer la rançon de la Vivacia, ni le pouvoir et l'habileté de la reprendre de force, mais nous avons suffisamment de quoi faire une offre raisonnable pour Altea et Jack.
Il va falloir retourner à Partage. Les pensées se bousculaient dans la tête de Brashen. Kenneth croit qu'il a coulé Parangon. Si nous réapparaissons... Il secoua la tête. Impossible de savoir quel accueil on va nous faire.
Il m'a pas vu ni Ambre non plus. Si on utilisait la yole pour remonter le marais à marée haute et puis qu'on fasse une offre.
Brashen secoua la tête en souriant à la vaillante proposition de Cliff. C'est une idée courageuse, mais ça ne marchera pas, fiston. Rien ne les empêchera de prendre la rançon et de vous retenir tous les deux. Non, je crains qu'on doive se battre.
Tu ne pourras pas la récupérer en te battant,
intervint soudain Parangon.
Pas plus que tu ne pourras la racheter. Il se moquait bien de ton or quand tu l'as affronté la dernière fois. Non, il ne la vendra pas.
Il tourna vers eux son visage balafré.
Comment le sais-tu?
Demanda Brashen. Parangon détourna la tête et sa voix devint plus grave.
Parce que je sais ce que je ferai, moi. J'aurais peur qu'elle n'ait appris mes secrets. Ce serait trop dangereux pour Kenneth de la laisser partir. Il la tuera avant qu'on la lui enlève. Pourtant, je ne comprends pas pourquoi il l'a sauvée. Il aurait été bien plus sage pour lui de la laisser se noyer. Donc, quelque chose m'échappe.
Brashen retint son souffle. Le navire n'avait jamais été aussi franc avec lui. On aurait presque dit qu'un étranger parlait avec la voix de Parangon. Il poursuivit songeur.
S'il la garde, elle sera pour lui comme un trésor inestimable. Elle est trop précieuse pour qu'il la tue. Il finira par la cacher là-bas. Et il n'y a qu'une seule cache assez sûre.
Peux-tu nous y conduire? Peut-on l'y attendre?
Demanda Brashen. Le navire se détourna. Il pencha la tête sur sa poitrine. Les muscles de son dos saillirent comme s'il engageait une terrible lutte avec lui-même.
« Alors quoi ?»
commença Cliff, mais Brashen le fit taire d'un geste. Ils attendirent.
« On part à la prochaine marée !»
annonça soudain Parangon de sa voix d'homme.
« Je le ferai. Ce qui ne s'achète pas avec l'or peut s'acheter avec le sang. Je vous conduirai à la clé qui ouvre le cœur de Kenneth. »